Un tango, une danse, un baiser.
Par les temps qui courent.
Ça y est, plus 21.
Par les temps qui courent, Marie Russell.
Et c'est seulement dans ce moment de présent.
Et que c'est en faisant qu'on devient un faiseron.
Jusqu'à ce que le corps entier commence à devenir lui aussi visage.
J'avoue, je ne suis pas très Guinness des records, mais quand même. Il y a un an, Femi, Annie Koulapokouti, vous jouiez une note pendant 3095 secondes d'affilée sur votre saxophone. Donc oui, vous avez battu un record, mais cela dit surtout qu'il y a dans votre souffle une force qui dépasse la performance. Un mélange des forces. Un mélange dont se compose aussi la musique afrobeat que vous jouez depuis longtemps et des forces que votre orchestre Positive Force porte jusque dans son nom. Votre dernier disque s'appelle One People, One World, peut-être une invitation à l'unification des forces et des souffles. Bonsoir Femi, Annie Koulapokouti, merci beaucoup d'être avec nous.
It's a big pleasure, thank you for
having me. Un grand plaisir, merci de me recevoir.
Et bonsoir à vous Hélène Joguet qui donc allait traduire bonsoir. Vers le français. Premier extrait de votre disque One People, One World qui s'appelle Them Don't Come Again. Femi, Annie Koulapokouti, est-ce que vous pourriez me dire ce que ça veut dire Them Don't?
They don't come means don't come. They have come again.
Ça veut dire
they have started again.
Ils sont venus, ils sont revenus, ils ont recommencé.
On entend dans cette chanson que vous parlez d'une violence faite au nom de la religion, faite au nom de Dieu. Pour vous, c'est ça qui revient et qui est dangereux en ce moment?
Yes, I think so. I think
oui, c'est ce que
it's
je pense.
Been the story from when we can remember religion
aussi loin qu'on puisse se souvenir, c'est comme ça que s'est faite notre histoire. La religion a toujours utilisé cette excuse, utilisé l'excuse de Dieu pour commettre des atrocités, des crimes, des meurtres. Et cette fois encore, on voit avec les l'intégrisme, les fondamentalismes, l'extrémisme. On voit qu'encore une fois, ils ont recours à la religion et à Dieu pour se servir de cette excuse, pour massacrer les gens. C'est toujours la même excuse.
Et vous avez l'impression que c'est quelque chose qui revient et qui se répète ?
Yes, I think so. It's why I'm singing about it.
Oui, c'est ce que je pense et c'est pour ça que je chante sur ce sujet, parce que ça me touche.
It's happening even right by my doorstep in Nigeria.
Et c'est des choses qui se passent littéralement tout à côté de chez moi, au pied de chez moi, au Nigeria.
On est au lendemain d'attentats en effet extrêmement sanglants et c'est un pays qui a aussi été touché de manière très forte en novembre dernier. Évidemment, j'imagine que votre musique et votre être en est affecté. Est-ce que ça affaiblit votre possibilité de créer ou est-ce que ça le renforce la nécessité de faire de la musique, Femi Kuti?
I feel stronger, not weakened.
Je ne me sens pas affaibli, je me sens au contraire renforcé par les choses qui se passent. Je me sens triste. Ça me chagrine, j'aimerais que ma musique parle de bonheur, qu'elle puisse m'aimer. Malheureusement, je suis très triste à l'idée de devoir chanter en parlant de choses très tristes et qui m'attristent profondément, mais je n'ai pas le choix. C'est des choses qui me dépassent, sont des choses que je vois de mes yeux. Mes enfants seront amenés à également assister à tout cela. C'est quelque chose qui est dans mon quotidien, littéralement. Mais bien sûr, qu'est-ce que j'aimerais pouvoir écrire des chansons d'amour et parler d'amour dans ce que j'écris. Malheureusement, je pense que la douleur ou la souffrance du monde, elle dépasse la partie amour dont je pourrais parler. Je crois qu'il faut que les gens réagissent rapidement avant qu'il soit trop tard pour vraiment résoudre ce problème. C'est un problème vraiment grave actuellement.
Je le disais en introduction, votre orchestre porte des forces positives et malgré ce que vous dites de votre tristesse et de votre colère, votre musique en porte aussi. J'ai dit qu'on l'appelait Afrobeat. Est-ce que vous aussi, vous l'appelleriez comme ça aujourd'hui? Et pour ceux qui ne connaissent pas ce mouvement musical qui a plusieurs dizaines d'années, est-ce que vous sauriez le définir pour nous?
Yes, my music is Afrobeat.
C'est l'Afrobeat, ma musique, oui.
Foundation is from my father.
Et bien sûr, le fondement de cette musique, c'est mon père. Lorsque j'étais enfant, c'est la musique que je préférais. Et j'ai toujours rêvé de pouvoir, à mon tour, créer ma propre musique dans cet esprit. C'est mon père qui a créé l'Afrobeat. Et l'Afrobeat, il le tenait lui-même de son grand-père qui était compositeur de gospel, donc pour les chants d'église. Il a composé notamment l'hymne national nigérian et son père, à lui également, était un grand compositeur. Il avait même d'ailleurs enregistré sur la BBC des disques pour la BBC au début des années 80. Et 90. Et mon père est devenu en fait l'organiste de son école, donc l'école de son père, de mon grand-père, et de sorte qu'il connaissait bien évidemment tous ses thèmes musicaux, il connaissait aussi toutes les chansons traditionnelles en Abel Kuta, et donc à ce moment-là, il est venu en Angleterre, il a étudié la musique classique, il a ensuite tâté un peu du jazz, après il a fait le High Life. Et là encore, comme je vous le disais, son père, mon grand-père, avait été l'auteur donc de l'hymne national, qui reste aujourd'hui très populaire au Nigeria. Donc il était porteur de tout cela. Et lorsque sa mère lui a dit, si tu veux avoir du succès, il faut vraiment que tu crées ton propre genre musical. Et c'est à ce moment-là qu'il a créé l'Afrobeat. Et je n'oublierai jamais son titre, s'appelait My Lady's Frustration, premier titre. Ça a été son premier grand succès, qui a été Jacoucou.
And I mean, we as children. We grew up.
Évidemment, pendant toute notre enfance, nous avons baigné depuis le début dans cette musique. On l'écoutait, il répétait avec son groupe. On l'a vu à travers toutes ses évolutions musicales, toute sa vie. Bien sûr, j'adorais mon père, je l'admirais énormément. Et oui, ma musique, c'est de l'afrobeat. Oui.
Et c'est votre musique, c'est-à-dire qu'il y a eu un moment donné où vous avez dû trouver votre son dans l'afrobeat. Comment l'avez-vous cherché et comment l'avez-vous trouvé?
Mais oui, c'était très important, à cause du jazz.
Because my father kind of forced me to fall in love with jazz.
Mon père m'a un petit peu forcé la main pour que je me mette à adorer le jazz, que je détestais dans un premier temps. Et lorsque j'ai commencé à comprendre la dextérité de l'improvisation, j'ai été complètement abasourdi, complètement dépassé. Je me disais, c'est incroyable que des êtres humains puissent jouer d'un instrument de musique avec une telle perfection, une telle rapidité aussi. Et c'est ça qui m'a donné le courage de poursuivre mon chemin musical à moi. Je savais bien que je ne serais jamais ni Coltrane, ni Dizzy Gillespie, ni Charlie Parker, évidemment. Mais si je pouvais trouver Femi Kuti, là, peut-être qu'il y avait un début de quelque chose pour moi. Et ce que j'avais utilisé, si vous voulez, comme théorème ou comme mathématique avec le jazz, j'ai fait la même chose avec mon père. C'est-à-dire, je ne voulais pas être mon père, je ne voulais pas faire ce que faisait mon père. Je l'admirais, je le respectais, mais je ne voulais pas faire du plagiat, simplement le copier. Je ne voulais pas être lui. Ça me semblait pas bienvenu. Donc dans toute cette espèce de chaos, il a été important pour moi de trouver ma voix et ma personnalité. Il a fallu un petit peu de temps. Parce que tout le monde, si vous voulez, que je me comporte d'une certaine façon. Il y avait tous ces fans de mon père qui me disaient, faut que tu reprennes le flambeau, que tu sois comme ton père. Et je disais, mais non, moi je veux être moi, il faut que je me trouve moi. Et je dois reconnaître d'ailleurs que c'est en France que les choses se sont faites, c'est-à-dire que c'est en France qu'on m'a donné la plus grande opportunité de m'exprimer. J'étais à Angoulême en 88, c'était ma première tournée. Et je commençais donc à sortir un petit peu du Nigeria et je commençais à m'exprimer musicalement. C'était les débuts et ça a été une vraie grâce, enfin salvatrice, parce que l'Europe voulait pas franchement avoir encore un deuxième, un nouveau Fela, et donc j'ai eu ce moment-là où j'ai pu vraiment m'exprimer moi personnellement. Et puis, bon, chemin faisant, et puis petit à petit, le Nigeria a commencé à comprendre d'où je venais, et ils ont commencé à m'accepter. Et je pense qu'aujourd'hui, la plupart des gens sont conscients de ça et le reconnaissent. Je me suis trouvé. Voilà.
La respiration circulaire est la technique que j'ai probablement abordée en premier, avant d'explorer toute autre technique plus extrême. Quand j'avais 15 ans, mon prof à l'époque venait d'apprendre lui-même à se servir de la respiration circulaire. Et il avait dans les 20-25 ans, et il m'a dit qu'il avait eu du mal à l'apprendre et que ça lui avait pris du temps, donc c'était aussi bien que je m'y mette rapidement, que c'était plus facile de m'y mettre à 15 ans. J'ai donc appris très vite. Au départ, on ne l'utilisait que pour la musique classique, parce que l'instrument, le saxophone, est un instrument si nouveau dans l'histoire de la musique classique que dans le répertoire, en matière de transcription, il faut écrire les respirations pour le saxophone. Mais il n'y a jamais eu un moment définitif dans ma vie où j'ai décidé que j'étais tel type de musicien. C'est plutôt une palette qui change petit à petit.
Thank you.
On entend ici le saxophoniste Colin Stetson. Il s'exprimait juste avant, en mars 2016, dans l'émission Tapage Nocturne sur France Musique, et il rappelait le moment où, dans sa vie de jeune musicien, il a découvert la respiration circulaire. Et je rappelais en introduction, Femi Anikulapokouti, que vous avez, il y a quelque temps, tenu cette note pendant plus de 50 minutes. Donc j'imagine aussi avec la respiration circulaire. Est-ce que vous vous rappelez, vous, du moment où vous avez commencé à jouer du saxophone avec cette technique?
Yes, my father taught it to me.
Oui, oui, c'est mon père qui m'en a parlé. Ça devait être en 78. Mon père n'a jamais réussi.
Hein,
mais il en avait entendu parler. Et donc il m'a parlé de ça. Et il m'a appris, on a utilisé une paille et de l'eau. Et il m'a expliqué ce qu'il fallait faire. Donc je suis rentrée à la maison, je me suis entraînée. Et puis bon, assez rapidement, j'ai réussi à maîtriser la technique. Et après, j'ai commencé à... Dans les années 80, je ne sais plus exactement, j'ai commencé à utiliser cette technique qui n'était pas quelque chose de très sérieux au départ. Hein. J'utilisais de temps en temps sur mon sax, je tenais la note quelques secondes, quelques minutes. Et un jour, je me souviens qu'on était chez un... je me souviens que on était chez un diplomate et j'ai vu ça, on a vu à la télévision, ils ont dit ça, c'est génial. J'ai dit, allez, mais moi, je suis capable de le faire aussi. Ils m'ont dit, mais allez, arrête de frimer. Et si t'es capable de le faire, pourquoi est-ce que tu l'as jamais fait? Pourquoi est-ce que vous le faites pas? Je suis pas d'accord. Allez, parions. On rentre à la maison après cette soirée. J'essaye. Et si je tiens la note, eh bien, après, tu me devras des excuses. Hein. Et alors, donc, on arrive, on rentre, et on me dit, alors, il est où le sax? Alors, cette respiration circulaire? Et je l'ai fait. Et ils étaient tous vraiment comme des ronflants. Ils m'ont dit, mais puisque tu sais le faire, pourquoi est-ce que tu l'as jamais fait? Et bien, la réponse a été, mon père m'avait dit, faut pas en faire tout un plat et en faire tout quelque chose de central, hein, dans ta manière de jouer. Il est plus important d'avoir trouvé une bonne mélodie que d'appliquer à tout prix la technique de la respiration circulaire. Il voulait pas que je me fasse embarquer trop par cette histoire-là. Donc, c'est quelque chose que j'avais jamais vraiment considéré. Comme quelque chose de très sérieux. Et alors, ma sœur, ma grande sœur m'a dit, allez, s'il te plaît, mon frère, fais ça sur scène. Bon, alors, j'ai commencé, effectivement, j'ai commencé à utiliser la technique sur scène. On me disait, ah oui, mais c'est Kenny G qui tient la note la plus longue, il a le record du monde, hein. Alors, on essayait de me casser un peu le moral avec ça. En 2016, je me souviens que j'étais sur scène, effectivement, on est venu me filmer, j'ai refait la respiration circulaire pendant plusieurs minutes et on m'a dit à nouveau, ah mais c'est génial, et on nous a dit, ah c'est le record du monde, et on dit, ah non, c'est Kenny G qui a le record du monde, j'ai dit, ah c'est pas vrai, ça recommence, mais pourquoi est-ce qu'il peut pas juste voir la beauté de ce que je suis en train de faire? Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, bon, allez, moi, je vais le casser, ce record. Hein. Et avant, je crois que le record, c'était de 46 secondes.
Minutes.
Je pensais que c'était 46 secondes. Hein. C'est ce que je croyais, que c'était ça, le record. Et moi, je faisais 5 minutes. Donc, je me suis dit, de toute façon, j'ai déjà battu depuis longtemps le record. Donc, quelle importance. Donc, j'y suis revenu et j'ai dit, c'est pas 46 secondes, c'est 46 minutes. Ah, là, ça se corse. Et donc, j'ai essayé, mais je ne dépassais pas la barre des 10 minutes. Et ce jour-là, au shrine, je me suis dit, bon, allez. Toutes les télévisions, les médias sont là, j'appelle mes enfants, je m'entraîne à la maison, et mes enfants, enfin, t'es là, tout le monde, je vais pas y arriver, ça va être gênant pour tout le monde, et mes enfants, on dit, t'inquiète, papa, quand tu vas voir la foule, avec qui va te regarder avec ses grands yeux, tu vas y arriver, ça va le faire. Je dis, vous êtes sûr? On dit, ouais, pas de problème, tu vas voir. Et donc, le shrine est blindé, tout le monde est là et m'attend au virage pour ce fameux record. Et là, j'ai atteint 49 minutes, 50 minutes. Les gens étaient en train de hurler dans tous les sens. Et je pense qu'effectivement, on s'est dit, bon, bah, ça y est, le record est battu. Et j'aurais pu sans doute aller beaucoup plus loin que ça, mais avec l'agitation dans le club, j'ai perdu la concentration. Mais sinon, j'aurais pu aller plus loin. Bon, ça a été un grand jour de mon existence, hein, je dois le dire, mais je resterai pas. Je me dis que c'était assez bête finalement d'avoir essayé. Mais moi j'aime bien faire ces trucs un peu bêtes.
Et est-ce que vous pouviez, Femi Kuti, être en relation avec la beauté de ce que vous faisiez à ce moment-là? Parce que ce n'était pas qu'une histoire de record stupide, ou alors vraiment, dans ces cas-là, vous êtes vraiment stupide.
Mais bien sûr, ce n'était pas le sujet. Simplement, à chaque fois que je le faisais, j'en disais, ouais, bon, et puis quoi? Ça m'a blessé. Je veux plus que les gens me disent oui, bon, bah après tout, c'est pas grand-chose. Je me suis dit, faut que je dépasse ça. Et une fois que ça a été fait, maintenant que c'est fait, même si effectivement quelqu'un bat encore un autre record, je peux me concentrer sur la beauté de la chose. Je pense à un de mes titres. Notamment où il y a ces notes tenues très longtemps, mais les gens aujourd'hui, je les emmène dans un lieu un peu très particulier avec la musique, un lieu paisible. Très paisible, très beau. Donc, les gens ne s'intéressent plus à ces concours, à ces concurrences. J'amène les gens dans quelque chose de beau, de paisible. Et quand j'y suis moi-même, dans ce lieu-là, c'est très beau.
Et justement, je voulais vous faire parler d'un autre instrument, parce qu'on parle du saxophone, mais il me semble qu'il y a plusieurs années, vous avez commencé à jouer de la trompette. Peut-être dans un état d'esprit où vous vouliez exprimer quelque chose qui était plus de l'ordre de la colère, et en fait dans la trompette vous avez trouvé la paix. Est-ce que vous avez été surpris par la manière, Femi Kuti, dont cet instrument vous a amené presque à l'endroit inverse de là où vous vouliez aller avec?
Yes, I was very shocked.
Ouais.
Because I was a very angry
en fait,
young
j'étais
young
très
man.
Choquée parce que j'avais beaucoup de colère. Et je suis venu en Europe, j'ai vu la beauté de l'Europe, je repartais ensuite en Afrique, au Nigeria, avec corruption, oppression, désordre généralisé. Je me disais, mais si les choses tourneront ici, l'Afrique, ça serait le paradis sur Terre. Le saxophone, c'était un instrument trop sexy, vous voyez. Je voulais quelque chose d'un peu plus roots, une espèce d'instrument plus militant qui pouvait tuer, littéralement. Donc c'est vrai qu'en 2000, j'ai commencé à travailler la trompette. C'est mon fils aîné qui m'a donné le courage de le faire. Il avait 3 ans quand j'ai commencé la trompette. Et je me suis revu. Je me suis dit, c'est mon instrument. Si je peux faire quelque chose de ça, ça sera génial. C'était vraiment un instrument qui devait me permettre d'exprimer la colère qu'il y avait en moi. Et en fait, à mesure que je travaillais la trompette, les choses ont complètement changé à l'intérieur de moi. Une lutte interne entre mon corps, mon esprit, mon mental. J'avais le sentiment que j'étais en train de sombrer dans la dépression, mais en fait, pas du tout. J'étais en train d'aller quelque part, et c'était pas du tout là où je voulais aller initialement. Mais je suis très reconnaissant d'avoir eu ce parcours-là, parce que la trompette a réglé des choses problématiques dans mon esprit, des faits historiques. Je ne sais pas comment ça se fait. Elle m'a aidé à résoudre plein de problèmes et elle m'a donné la paix. Et quand les gens me disent, bah, comment est-ce que tu es arrivé à ce que tu es aujourd'hui, je dis, bah, ça c'est l'œuvre de la trompette.
And the task which is before us of unifying our continent.
La tâche devant nous d'unifier notre continent. Nous ne devons pas rester à la traîne. Il faut attaquer notre devoir à notre rythme. devant la vitesse des événements de notre époque, il ne faudra compter que sur nos actes. Tout le continent nous a donné un mandat, posé les fondations, les bases de l'unité africaine ici. Il est de notre ressort d'aller au bout de ce mandat en créant la formule sur laquelle reposera le continent uni.
C'est la voix de Kwame Nkrumah, c'est l'un des théoriciens du panafricanisme, et on voulait vous le faire entendre, Femi Anikulapokouti, parce que dans de nombreuses de vos chansons, dans cet album, mais aussi dans les précédents, vous parlez de l'Afrique. Vous ne parlez pas nécessairement du Nigeria ou d'autres pays, comme si vous reveniez à quelque chose qui précède le découpage qu'on a pu faire de l'Afrique, notamment à Berlin, par exemple, et avec toutes les procédures de colonisation. Comme si vous reveniez à quelque chose qui était uni. Est-ce que cette pensée-là, elle va du côté du panafricanisme ou est-ce que vous avez votre propre pensée de l'unification du continent africain?
Yes, it is pan-Africanism.
Oui, c'est le panafricanisme.
I think that's the only way out for Africa.
Je pense que c'est la seule issue pour l'Afrique.
Africa must start to think for itself.
L'Afrique, elle doit se prendre en main, s'assumer.
Very simple example.
Je vais vous donner des exemples
Even me,
très simples.
And many of my colleagues, mates, we all think
que ce soit moi ou que
French,
ce soit mes collègues, souvent nous pensons qui en portugais, Portuguese, en français English, ou en anglais, selon les cas.
We've lost our soul.
Nous avons perdu notre âme.
And we have to find ourselves again.
Et nous devons retrouver notre identité. Et je pense que beaucoup de gens ont peur, craignent que si la vérité de l'Afrique s'exprime et sort, elle risquerait d'être en colère, l'Afrique. Or, ce que je pense, c'est que si on donne à l'Afrique cette liberté d'expression, eh bien, ce que nous avons, c'est plutôt le début de la paix mondiale. Et je pense que l'Afrique donnera le ton ou sera l'origine des normes qui présideront ensuite à cette gouvernance mondiale. De là viendront les règles. Donc c'est exactement à l'inverse que ce que craignent les gens. Hein. Ça ne va pas du tout se passer comme ça.
Are not given back to Africa,
mais je pense que si son histoire n'est pas rendue à l'Afrique et si elle ne peut pas s'y confronter, elle, personnellement, à son histoire, eh bien, elle va continuer à vivre cette situation d'anarchie, de chaos, d'instabilité.
And whilst Africa has to look for these facts,
c'est vrai que, bien sûr, l'Afrique doit regarder son histoire. Et doit regarder tous ces faits qui, dans une large mesure, sont cachés, hein, et dissimulés dans le monde.
So, yes, I think pan-Africanism.
Je pense que voilà, il y a ce travail à faire, et je pense que le panafricanisme est la réponse.
Et c'est l'un des titres de votre album, Femi Kuti, Africa Will Be Great Again. On imagine que ça fait partie de ces choses que vous défendez en chanson. Et en même temps, c'est vrai que moi, je me suis demandé. Comment vous avez été transmis cette pensée de l'Afrique unie? Parce que on a évoqué votre père, votre grand-père, mais on peut aussi évoquer votre grand-mère, des femmes qui ont été en lien avec des combats nationalistes, avec la décolonisation, c'est-à-dire aussi l'idée d'une sorte d'identité nigérienne. Ça vous intéresse pas. Vous pensez l'Afrique unie. Depuis quand vous pensez cette manière de parler de l'Afrique et pas des pays en particulier?
Oh, probably from late 70s.
Depuis la fin des années 70, hein, et là aussi c'est lié aux lectures que j'ai faites. J'ai lu Martin Luther King, Patrice Lumumba.
So, this is my conclusion. Of my father's life.
Alors tout ceci, si vous voulez, c'est à la fois la compilation, enfin la synthèse de la vie qui a été celle de mon père et de mes lectures. Voilà, où en est l'Afrique exactement, avoir cet instantané de la situation africaine.
So, where the song is really
et là,
quite depressing,
où,
the final analysis is Africa will be great again.
Ou si vous voulez, l'étude à mi-parcours est assez déprimante. Je pense que à terme, fatalement, tôt ou tard, l'Afrique ira bien et se relèvera et ira très bien. Peut-être pas du temps de mon vivant, mais je pense qu'il faut être reconnaissant. Il ne faut pas oublier les gens, hommes et femmes, qui sont morts, qui ont sacrifié leur vie. Mohamed Ali, Mandela, Bob Marley, des gens qui ont mené la lutte et qui à leur époque, ont donné de la sagesse, une certaine connaissance aux gens autour d'eux qui nous permettent de nous comprendre. Vous savez, si ça n'avait pas été ça, j'aurais été juste encore un ressortissant de Lagos qui aurait donné son avis, qui aurait dit « Oui, bon, tout ça, c'est de notre faute », ce qui n'est pas une vérité historique, au demeurant. Donc, grâce à ces gens-là, il y a des choses que j'ai comprises. Il faut donc avoir de la reconnaissance pour ces personnes. C'est le fondement, je crois, le socle qui va être fondateur pour le bien-être futur des populations africaines. Et là, je voudrais être très clair, quand je parle de l'Afrique, et d'où le nom One People, One World, un peuple, un monde, pourquoi est-ce que je parle de l'Afrique? C'est parce que c'est le lieu que je connais. Et puis parce que je suis vraiment attristée, Côte d'Ivoire, Somalie, Togo, il y a des conflits partout. La pauvreté, elle est littéralement au coin de la rue chez moi. Il y a de quoi pleurer, vraiment, tous les jours. Mais il y a aussi des riches, des richesses, et tous ces gens qui volent. Qui accapare, qui vole le bien. Vous voyez, par exemple, le Congo. Tout le monde s'en fiche de ce qui se passe au Congo. Ben, on a tort. Moi, je pense que nous devrions nous en soucier. Lorsqu'il y a eu une guerre en Yougoslavie, ça nous regarde. Quand il y a une guerre en Irak, ça nous regarde. Quand des femmes, des enfants meurent quelque part, on est concerné. Et séisme en Haïti, ça nous concerne aussi, à chaque fois. Et je crois que cette gouvernance mondiale, elle doit complètement changer. Il faut qu'elle soit marquée par davantage d'humanité. Alors, je parle de l'Afrique parce que j'y ai grandi, parce que je la connais, donc je décris la réalité qui est autour de moi, mais je voyage, j'ai vu du monde. Et je dirais que je suis avant tout mu par cette humanité. Si je vois de la souffrance en France, je ne vais pas fermer les yeux. Quand on voit la crise de la migration, comment est-ce que le monde peut dire « Ah non, mais ça ne nous regarde pas, ce ne sont pas nos affaires. » 6000 bombes ont été lancées au-dessus de l'Irak. Comment est-ce qu'on peut dire qu'on s'en lave les mains et que ce ne sont pas nos affaires lorsqu'il y a des enfants qui meurent? Peu importe la faute. On ne peut pas juste dire « Ce ne sont pas nos affaires, cela ne nous regarde pas. » Je vais vous donner un autre exemple. Chaque bombe qui est larguée quelque part dans le monde, eh bien, il faut la mettre en relation avec le changement climatique aussi. Voilà. Vous savez, c'est comme si à chaque fois, on enfonce quelqu'un. Chaque bombe, c'est on enfonce le clou et on enfonce. Eh bien, c'est ce qui se passe avec la planète. On lui enfonce un clou à sa surface à chaque fois. Ça concerne tout le monde, tout cela. Donc oui, je pense que le panafricanisme est la voie et je suis effectivement très, très concernée par tout ce qui se passe dans le monde.
Et puisque vous citiez son nom, on va écouter Bob Marley en 1979.
On n'aime pas les ordres établis. Tu vois, la musique dit « à mort les oppresseurs, blanc ou noir, à tous les oppresseurs ». Quand tu as affaire aux êtres humains, tu as affaire avec la raison pour laquelle Dieu a créé l'homme, en premier lieu, et comment les hommes doivent vivre. Et nous, on veut vivre comme Dieu a dit que l'homme doit vivre. À travers la musique reggae, on fait passer notre message. Car beaucoup de gens suivent la voie de Dieu. Ce n'est pas qu'ils veulent, ne veulent pas vivre de cette manière, ils sont forcés de vivre d'une autre. Alors la musique va changer ça. La musique va changer tout ça. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre, mais c'est ce qui va se passer. Toutes les musiques qui viennent de la Jamaïque sont de la roots music. Dès que ça crée quelque chose, c'est de la roots music. Si c'est une chose qui suit, ce n'est pas roots. On est face à la créativité, face au pouvoir créatif. Tu vois, et de ça est sorti le reggae, le rocksteady. Toutes les musiques viennent de ce pouvoir créatif du roots. C'est nécessaire de comprendre les paroles. Elles ont un sens. Certaines personnes comprennent les paroles, et certaines personnes n'ont jamais vécu ces choses. La majorité du monde souffre, des masses de gens souffrent. Cette musique vient des masses. Elle ne vient pas vraiment de la classe supérieure.
Bob Marley avec son One Love, et juste avant, dans la voix de Romain de Bec de Lièvre, une archive de 1979 où il s'exprimait au 56 Hope Road. Alors, votre disque à vous, Femi Anikulapokouti, s'appelle One Word, One People, One Word, et vous disiez tout à l'heure que le panafricanisme était finalement une sorte de point de départ pour penser l'unité du peuple, l'unité de l'humanité et l'unité du monde entier. Ici, on entend Bob Marley dire que à la souffrance de cette unité du peuple et de l'unité du monde, il faut répondre par la musique, et que la musique finira par changer les choses. Est-ce que c'est un espoir que vous partagez avec lui ?
Yes, I could say so. But
oui,
it will never be done without the music.
Je dirais comme ça, mais pas seulement avec la musique elle toute seule.
I think music definitely is an important.
La musique est sans aucun doute un facteur important.
Without music, we could not. I think there would be more violence.
Sans musique, il y aurait, je pense, davantage de violence, d'oppression, de tristesse. La musique, elle apporte un équilibre.
The way we talk is musical.
La musique, la manière dont nous parlons, dont nous mangeons, dont nous faisons l'amour, toute la création, tout ça, c'est musical. Donc, il n'y a pas de vie ou d'action sans musique. Mais je n'irai pas jusqu'à dire, je pense que ce serait arrogant. Je ne me permettrai pas de donner des conseils à tout le monde. Par exemple, les médecins, les ingénieurs n'ont pas les mêmes outils que nous. Mais nous, les musiciens, c'est vrai que nous parlons au nom et pour beaucoup de gens. Bien sûr, s'il n'y avait pas de grands médecins, on mourrait tous. Et s'il n'y avait pas d'agriculteurs et de paysans, on ne mangerait pas à notre faim. De la même manière, le musicien ou la musicienne africaines doivent se voir comme une espèce d'intermédiaire, de moyen d'expression qui est utilisé par des forces plus élevées pour communiquer. Il faut avoir donc être reconnaissant pour ce que l'on a, sans arrogance, sans fierté. Il faut agir avec simplicité, se dire cette force, elle peut m'utiliser pour agir. Et si vous me demandez d'où vient la musique, je ne sais pas.
It's not like I'm plucking it from a tree or somewhere.
Je la trouve pas dans les arbres, hein. Je la vois pas non plus. Parfois, je suis émerveillée lorsque je vois les mélodies. Je vois des choses que j'ai faites. Je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je suis incapable de vous dire comment ça s'est fait, d'où c'est venu. Et ce que je sais, c'est que j'ai reçu probablement cette capacité à être le médiateur ou à exprimer quelque chose d'important. Et je pense parler pour beaucoup de gens qui ne sont pas de musiciens, pour ainsi dire. Et je vois ça un petit peu comme, vous voyez, le médecin. Le médecin, sa priorité, ça doit être d'aimer l'humanité, de vouloir sauver des vies. Donc votre objectif en tant que médecin, ce n'est pas l'argent, bien sûr. Ce n'est pas son but et sa mission. Ce qui plaît au médecin, c'est la vie des humains. Et quand on est avocat, par exemple, on a pour mission la justice. Eh bien, le musicien, lui, il est là pour exprimer l'amour, la justice, et puis pour crier ou chanter la vérité à tout moment. Quitte à le faire avec un instrument, quand c'est le cas de la musique classique ou du jazz, on n'est pas obligé de chanter. C'est l'instrument à ce moment-là qui chante pour vous. On le voit avec le jazz ou le blues. C'est comme ça que je vois les choses.
Bob Marley, dans cette archive et dans cette chanson, rajoute au titre de votre disque Femi Kuti, One People, One World, le One Love. Est-ce que ça fait partie de cette chose simple que vous voulez?
En fait, oui. Moi, je me suis dit que parler de l'amour, là, le One simple. Love, c'était trop simple.
An important enough word for me. I'm not saying it isn't.
C'était, disons que c'était pas un mot suffisamment important pour que je le mette dans mon texte. Je me fais pas dire bien sûr que l'amour n'est pas important. Il l'est. Mais nous sommes à un moment critique dans ce monde et très peu de gens, je crois, sont conscients de l'importance du changement climatique. C'est pour ça que j'ai donné l'exemple. Toutes les bombes, chaque bombe qui est larguée quelque part dans le monde, on se dit que ça va peut-être pas vous affecter ici à Paris, mais non, tôt ou tard, elle aura un impact, cette bombe larguée ailleurs. Aussi, lorsqu'il y a aussi, par exemple, dans l'océan des nappes d'hydrocarbures, ça va affecter tout le monde. Et pourquoi les gens crient? Il y a déjà 100 ans, les gens hurlaient en disant l'industrie va ruiner la vie des humains et puis cette avidité, tout le monde veut de l'argent. On savait que c'était mauvais, on le dit depuis longtemps. Alors, one people, one world, one love, hein. Ce love en plus, c'était peut-être trop simple pour moi, je crois. Un peuple, un monde, ce que j'ai retenu donc, one people, one world, en fait, ça couvre tout, ça englobe tout.
À quoi ça ressemble le shrine?
Oh, c'est un peu un endroit magique pour moi. Surtout la première fois où j'y étais, c'était très magique. C'est-à-dire qu'on rentre au shrine vers 11h minuit, parce qu'à peu près tous les spectacles, tous les concerts démarrent à cette heure-ci, à Lagos. Et on ne sait pas vraiment à quelle heure on va en sortir. C'est-à-dire qu'on se dit toujours qu'il se fait tard et tout. Et en fait, on se rend compte très vite qu'on en sort en général à 7h du matin. Quand la musique se termine, parce que Fela joue à peu près 7 heures d'affilée. Et c'est un mélange de sensualité au niveau de la musique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des moments qui montent très fort et des moments qui tombent, ou des arrêts, des choses comme ça. C'est une espèce de chose qui continue pendant 7 heures. Bon, la fumée est dedans, l'ambiance est dedans, l'alcool est dedans, où les gens ont l'air de un peu tous se connaître, sont là dans une espèce de recueillement par rapport à la musique. parce qu'on écoute Fela, c'est lui-même qui le dit. Il dit, je veux que les gens écoutent ma musique, et même ne dansent pas trop. Il y a des moments où on ne danse pas, où Fela lui-même dit à quel moment on peut aller danser sur la piste, et il y a des moments où on ne doit pas danser. Donc il y a une espèce de mélange de choses comme ça, les gens se connaissent, dehors il y a une espèce de petit village où on peut manger, qui est quand même un des rares endroits de Lagos, on peut venir à n'importe quelle heure de la nuit, manger, boire quelque chose, rencontrer des gens. Lagos c'est très petit la nuit, donc on retrouve des gens, même on peut aller là-bas à 4h du matin et tomber sur un ami, et puis rentrer dans le shrine, et on est pris, il y a toute une espèce de magie aussi au niveau des lumières qui est à l'intérieur, c'est-à-dire que tout est éclairé, avec des néons de couleurs, avec des couleurs très précises auxquelles Fela tient, qui sont le rouge, le bleu, le jaune, le vert. Et c'est ces quatre couleurs à peu près fondamentales qu'on trouve partout. Et voilà, puis ça se passe toute la nuit, on est là, on discute. Les gens vous abordent chez Fela. On peut rencontrer aussi bien des militaires en civil qui viennent là pour la musique, on peut rencontrer des profs, des voyous de Lagos, des filles qui viennent passer la nuit et traîner. On vit la nuit et vers 7h du matin, quand tout se finit à peu près, on redémarre sur la vie courante et on dort l'après-midi. C'est un autre système de fonctionnement.
Show it. right. Say the government of Obasanjo, go carry all of us, go for hell. You carry your pompous self about, you say you no want to hear. Now everything come this scatter for your face, Señor Buku, show no.
Et voilà, c'est un live at Shrine par vous, cette fois-ci, Femi Anikulapokouti. Alors, juste avant, on entendait des ambiances décrites de ce club très fameux de Lagos lorsque c'était Femi Kuti qui était sur scène. C'est un endroit extrêmement particulier que vous avez reconstruit, Femi Kuti. On dit que vous rêvez de temps en temps de votre père avec qui vous avez des conversations nocturnes. Est-ce que être sur scène dans ce club-là, c'est continuer d'entretenir une forme de conversation avec lui?
Not anymore.
Plus maintenant.
Now I think I have transformed into
je dirais que
totally my being.
J'ai transformé cela et I think c'est vraiment complètement moi aujourd'hui. Le shrine, c'est un lieu spirituel, très spirituel. Je ne sais pas comment vous expliquer ça exactement. Mais on a réussi et accompli quelque chose que tous pensaient impossible. Lorsque ma mère m'a donné l'argent et lorsque ma partie de ma famille a acheté le terrain, a acheté également le local, je ne me suis même pas rendu compte à ce moment-là à quel point il y avait beaucoup de gens qui avaient de la haine, qui étaient jaloux et qui voulaient vraiment que ça ne marche pas au shrine. Et là, je suis devenu très parano. Et c'est à ce moment-là, je crois qu'il y a eu effectivement ce lien entre mon esprit et celui de mon père. J'ai eu besoin de revisiter tout ce qu'il avait vécu lui-même dans sa lutte contre le gouvernement, l'injustice, et voilà que ça se reproduisait, ça recommençait avec moi. Et je crois que mon esprit, mon âme a été à ce moment-là, je crois, réconforté d'une certaine manière par sa présence. Il m'a fallu quelques années, je pense, pour ensuite, après cela, retransformer toute cette histoire et pour que ce soit vraiment que je sois moi-même et pour trouver, en fait, ma manière, ma feuille de route à moi pour gagner cette bataille-là. Et là, je dois remercier ma grande sœur. Les femmes ont joué un rôle très important dans ma vie. Ma mère, par exemple, on n'en parle pas. Les femmes qui ont compté dans ma vie sont nombreuses. L'homme, parfois, est agressif de manière assez bête, alors que ma grande sœur et ma mère ont apporté respectivement une certaine diplomatie et de bonté, de douceur, de bienveillance dans ma vie. Et c'est grâce à cela que je me suis retrouvée. Comment est-ce que j'ai réussi à faire quelque chose du shrine? Comment faire pour remporter ce défi alors qu'on avait des descentes de police à ce moment-là? Donc, je me suis dit, OK, je lance la bataille. Aujourd'hui, le gouvernement de Lagos a entre-temps accepté que le shrine est vraiment un highlight, une attraction touristique très importante. Mais il a fallu 18 ans de lutte pour cela, pour qu'ils le reconnaissent.
Me finding myself and positioning myself.
Je me suis donc trouvé.
Not to feel where my father
et
failed.
Je me suis positionné en me disant je ne veux pas avoir heurté un échec là où mon père a connu l'échec. Comment est-ce que les gens peuvent vraiment comprendre le shrine, comprendre ce qu'il est, ce qu'il représente vraiment. Et je pense que avec ma grande sœur, on y est parvenu. Nous avons, bien sûr, nous rendons hommage à mon père, à sa vie, à sa musique, à des gens qui ont lutté pour l'émancipation de l'Afrique aussi. Mais comme vous le disiez, j'ai vécu toute une transformation personnelle, un processus qui était presque un processus de transe. Ma vie était mélangée, confondue avec celle de mon père. C'était vraiment le désordre, le chaos. Et maintenant, après les choses se sont... Je crois que c'est la trompette qui a fait de la magie. La musique est merveilleuse.
On va se quitter sur ce mot-là. Merci beaucoup, Fémi. Annie Koulapo-Kouti, d'avoir été avec nous pendant 7 heures. Et merci à Hélène Joguet d'avoir traduit vos propos. Je rappelle le titre de votre album, One People, One World. Temps qui court, on se retrouve demain à 21h sur France Culture avec la comédienne Valérie Dréville. Et quand vous voulez, sur franceculture.fr ou en podcast. Au son ce soir, c'était Pierrick Monseigny, à la réalisation Milena et Ligue, Jeanne Aléos, Romain de Bec de Lièvre et Corinne Amar m'aident à préparer cette émission. Je réponds à Marie Richeux sur Twitter.
Must we sing before them hear the suffering of the people? How many innocent lives must be lost before they know war, not evil? How many disasters must happen before they know climate change not be dealt? How many riots must take place before they know poverty not real thing?
Parle-t-on que cru, Marie Rusher.
That's perfect.
Parle-t-on que cru, Marie Rusher.
Wonderful. Wonderful.